Radio Prague, les informations.
Mirek Topolánek ne sera plus le président de l'ODS. Jiří Pernes, nouveau directeur de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires, entreprend déjà des changements et Radek Štěpánek interrompt sa carrière en tennis. Bonjour, Mirek Topolánek ne sera plus le président du Parti civique démocrate, principal parti de droite du pays. Il l'a annoncé à l'issue d'une réunion de la direction de ce parti qui s'est déroulée ce jeudi matin. À partir du 12 avril, c'est Petr Nečas qui prendra la relève en dirigeant l'ODS jusqu'à son prochain congrès régulier. Vous aurez tout de suite plus de détails dans les faits et événements. À peine entré en fonction, le nouveau directeur de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires a déjà licencié le directeur du bureau de l'Institut, Patrick Kowchitsky, le directeur du comité informatique, Marcel Uchitil, et deux adjoints. Jiří Pernes a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 31 mars. Il succède à Pavel Žáček, malgré la polémique provoquée par sa nomination. Une partie du personnel avait protesté contre sa nomination, affirmant qu'il ne remplissait pas les critères de sélection depuis sa récente création, l'Institut fait l'objet de critiques, surtout à cause de potentielles manipulations de la part des responsables politiques. C'est ce jeudi que commencent pour les écoliers tchèques les vacances de Pâques de 2 jours. Le lundi qui suit le dimanche de Pâques étant un jour férié en République tchèque, c'est mardi prochain qu'ils vont retourner à l'école. Beaucoup de manifestations, de programmes et d'événements seront préparés à cette occasion dans tout le pays pour les familles avec enfants. Et ce jeudi 1er avril, le très connu théâtre pour enfants Speibel et Urvinek ouvre ses portes après une importante reconstruction qui a duré 2 ans et qui a coûté environ 130 millions de couronnes. Les marionnettes représentant ces deux personnages seront en outre les principaux animateurs de la présence tchèque à l'Expo 2010 à Shanghai. Cette année, le théâtre va souffler ses 80 bougies. Une musée unique dédiée au théâtre Speibel et Urvinek a été ouvert à Prague. Ce jeudi s'ouvrent les jardins du château de Prague. Les visiteurs peuvent se promener aussi dans les vastes jardins du palais reliant l'enceinte du château avec le quartier de Malastrana. C'est aussi le jardin Wallenstein qui ouvre ses portes. L'ensemble de ces jardins est traditionnellement ouvert au public entre avril et octobre. L'enceinte du château de Prague est entourée au total de 6 jardins. Leur partie sud subira cette année une reconstruction. Et le meilleur joueur de tennis tchèque actuel, Radek Štěpánek, va interrompre sa carrière pendant au moins 2 mois. Il souffre d'un syndrome de fatigue chronique et a décidé de se faire soigner aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'équipe tchèque de Coupe Davis, Karel Teikal. Déjà en Belgique, pendant la Coupe Davis, j'ai senti que ça n'allait pas. Mes problèmes se sont intensifiés aux USA. J'ai donc passé des analyses de sang qui ont révélé un syndrome de fatigue, aurait confié avec regret Radek Štěpánek au responsable de l'équipe tchèque de Coupe Davis. Il est difficile de savoir si le joueur de 31 ans aura retrouvé la forme pour le tournoi de Roland-Garros qui commence le 23 mai à Paris. L'équipe tchèque espère avant tout que le 18e joueur mondial sera de retour pour les quarts de finale de la Coupe Davis au Chili en juillet prochain. Et on termine avec la météo. Ce jeudi, jour de fête des Hugo, selon le calendrier local, le ciel en Tchéquie reste nuageux à couvert, avec de la pluie par endroits et des températures diurnes ne dépassant pas les 12 degrés. Quelques belles éclaircies devraient apparaître vers la fin de semaine. Voilà, c'était le bulletin d'information présenté par Anne-Claire Veluire.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Mirek Topolánek a donc annoncé sa décision d'abandonner le poste de président du Parti civique démocrate ODS. Ce sera le premier thème de cette émission. La Centrale nationale antidrogue a rendu public son rapport annuel. Nous vous donnerons quelques chiffres à ce sujet. Et nous céderons à la fin la parole au réalisateur français Gaspard Noé qui est venu à Prague à l'occasion du festival de cinéma Fabiofest. Donnant suite à la demande d'une grande partie de ses confrères, l'ex-premier ministre Mirek Topolánek, 53 ans, va abandonner sa fonction de président du Parti civique démocrate ODS, principale formation de droite du pays à la tête duquel il se trouvait depuis 2002. À partir du lundi 12 avril, le parti sera dirigé de façon informelle et jusqu'à la convocation du prochain congrès du parti par un de ses vice-présidents, Petr Nečas. La décision a été annoncée ce jeudi matin lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à l'issue d'une réunion de la direction de l'ODS et au cours de laquelle Mirek Topolánek a refusé de répondre aux questions de journalistes. On l'écoute.
Je considère qu'il s'agit là d'une solution très correcte qui donne des compétences claires à Petr Nečas en tant que chef du parti et en tant que leader électoral. De ce point de vue, il jouit de mon plein soutien et j'invite tous mes sympathisants potentiels à le soutenir et à donner aux élections leur voix à l'ODS.
Le départ de Mirek Topolánek n'est pas une surprise. Il semblait prévisible depuis que son parti avait décidé de le remplacer au poste de leader de la campagne électorale par Petr Nečas. Cette récente décision, rappelons-le, a été une réaction à certains propos très mal placés prononcés par Mirek Topolánek sur l'Église, sur les origines juives du Premier ministre Jan Fischer ou encore sur les homosexuels. Aux yeux du parti qui se veut conservateur, ces déclarations indiscrètes qui ont fait couler beaucoup d'encre risquaient de léser encore davantage l'image de l'ODS, ceci dans une situation où ses intentions de vote sont nettement inférieures par rapport à celles de son rival numéro 1, le parti social-démocrate ČSSD. Nul ne doute que faire tomber la tête du leader d'un parti à moins de 2 mois des élections législatives se présente comme un grand risque. Beaucoup de représentants de l'ODS, dont on ne citera que le président du Sénat, Přemysl Sobotka, estiment cependant que le départ de Mirek Topolánek, tout en constituant une démarche radicale, pourra considérablement renforcer la cote du parti et ses chances de sortir vainqueur des prochaines législatives en mai prochain. Le premier grand duel électoral entre le chef de file du ČSSD Jiří Paroubek et le nouveau chef de l'ODS Petr Nečas, qui sera retransmis le 11 avril prochain par la télévision privée Prima, sera donc suivi avec beaucoup d'attention. La Centrale nationale anti-drogue a rendu public son rapport annuel mardi, un rapport qui fait état d'un problème persistant en République tchèque, la production de pervitine. Détail avec Anna Kobeshta.
La pervitine, c'est la méthamphétamine made in Czech Republic, une drogue à succès en raison de la facilité de sa fabrication. Synthétisée à partir de médicaments contenant de la pseudoéphédrine disponible en pharmacie, elle est souvent tout simplement produite à la maison. Pour Jakub Friedrich, directeur de la Centrale nationale antidrogue, la République tchèque tient là un triste record européen dans la production de stupéfiants.
Il est difficile d'établir précisément la consommation absolue de ces substances illégales. Nous n'avons que quelques indicateurs qui nous permettent de tirer des conclusions. Nous avons une énorme quantité de petits laboratoires de production de pervitine. On en a compté 340 l'an dernier, ce qui est un cas unique en Europe. Cette petite production connaît d'ailleurs une légère augmentation en comparaison des années précédentes.
L'accessibilité de la pseudoéphédrine contenue dans les médicaments est pour Jakub Friedrich le principal problème. Depuis l'automne dernier, ces médicaments, souvent du simple paracétamol, sont de nouveau en vente libre sans que les pharmaciens n'aient l'obligation d'enregistrer le nom du client. Auparavant, de mai à octobre, ceux-ci ne pouvaient être achetés que sur présentation d'une carte d'identité. Mais le Bureau pour la protection des données personnelles a émis des réserves en rapport avec ces données sensibles. Le ministère de la Santé a donc révisé son amendement qui va être à nouveau soumis aux députés. Côté consommation, Jakub Friedrich estime que les consommateurs de pervitine représentent à l'heure actuelle les 2/3 des toxicomanes en République tchèque et sont les plus grands consommateurs de méthamphétamine en Europe. Mais pour Jakub Preso de l'association Dropin, qui aide les toxicomanes à décrocher, la situation générale de la production et de la consommation de stupéfiants sur le marché tchèque n'est toutefois pas si alarmante que cela.
En même temps, la situation n'est pas aussi tragique que cela. D'un autre côté, il y a la production, mais c'est une production qui est aussi dirigée vers d'autres pays européens. on fabrique pour exporter. En ce qui concerne notre situation propre, en ce qui concerne les utilisateurs de drogues dures, par injection notamment, la situation est stabilisée depuis plusieurs années. À ce niveau-là, il n'y a pas de développement catastrophique.
Autre phénomène croissant, selon Jakub Friedrich, l'augmentation des plantations de cannabis. Une production qui, selon lui, va s'accroître, d'autant que la demande à l'étranger est forte en la matière. Tout comme la pervitine, le cannabis est également exporté dans d'autres pays européens. La police veut d'ailleurs contrôler plus sévèrement la détention de marijuana dans les lieux publics. Rappelons également que depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier dernier du nouveau code pénal, la détention de petites quantités de drogue, qu'elles soient douces ou dures, est dépénalisée en République tchèque, faisant du même coup du pays l'un des plus libéraux d'Europe en la matière. Difficile de dire pour l'heure ce que cette nouvelle législation, dans un pays déjà réputé tolérant en la matière, aura comme conséquence visible sur le prochain état des lieux de la toxicomanie en République tchèque.
Et on changera maintenant de thème. Avant de se prolonger dans les régions de République tchèque, le festival Febiofest se poursuit dans la capitale tchèque jusqu'au vendredi 2 avril. Parmi les invités, le réalisateur français Gaspard Noé, auteur de films non conformistes, est venu présenter son dernier long métrage Enter the Void. Plus de détails avec Anne-Claire Veluire.
Gaspard Noé est un grand créateur d'atmosphères. Ses atmosphères sont tout à fait remarquables. Même s'il présentait la météo, on reconnaîtrait une atmosphère de Gaspard. C'est ce qu'avait déclaré le comédien et réalisateur français Albert Dupontel à Cannes lors de la présentation du très controversé Irréversible, film en compétition officielle du festival en 2002, resté dans les annales pour une scène de viol de près de 9 minutes qui a choqué une grande partie du public. Et il serait en effet difficile de nier le caractère, le style, la griffe particulière de ce cinéaste qui, en fondant avec sa compagne et sa propre société de production les cinémas de la zone, s'est lui-même donné la liberté de créer des films qu'il veut atypiques. Gaspard Noé défend auprès d'Aleš Sturli et Magda Koutska, nos collègues de Radio Wave, sa vision du cinéma.
Je pense que si on veut écrire des romans, il faut écrire des romans. Si on veut faire des pièces de théâtre ou des téléfilms, on peut faire des pièces de théâtre ou des téléfilms. Moi, je conçois plutôt le cinéma comme des roller coasters, où il faut que les gens ils aient des sensations fortes. Tout réalisateur, quand il commence un film, il invente son système linguistique. Moi, j'aime bien les plans séquences, parce que j'ai l'impression qu'on a plus le temps de s'installer dans une situation. Et j'aime bien les effets stroboscopiques, jouer avec l'image, la rendre floue, nette, des choses comme ça. Mais cela, c'est plutôt pour créer un état d'hypnose qui ressemble un peu plus à l'état de sommeil, au rêve en général.
Annoncé en 2005, Soudain le vide sortira en France au début de ce mois de mai 2010 sous son titre en version anglaise Enter the Void. Même s'il a pu être visionné par les festivaliers de Cannes 2009, le public tchèque pendant le festival Febiofest en a donc presque l'exclusivité. L'histoire est celle de deux Américains, un frère et une sœur qui vivent à Tokyo. Elle travaille dans un bar de striptease. Lui est un petit dealer de drogue abattu lors d'une descente de police. À partir de ce moment, son esprit erre dans le monde des vivants pour tenir la promesse faite à sa sœur de ne jamais la laisser tomber. Fidèle à ses habitudes, Gaspard Noé présente un film ésotérique et même mystique, inspiré en partie du livre des morts tibétains. On l'écoute, Gaspard Noé.
Le livre des morts tibétains, c'est un livre que les moines tibétains lisent aux gens quand ils sont morts, et c'est pour aider l'esprit du mort soit à accéder à un état d'existence supérieur, soit à se réincarner dans le bon ventre. Moi, je suis pas du tout bouddhiste, je suis même pas religieux, je suis totalement athée. Mais je trouvais que c'était une bonne structure pour un film où je voulais montrer ce que les gens appellent une projection astrale, la sortie de son corps. Il y a aussi pas mal de gens qui disent, quand ils ont des accidents de la route, « Ah, je suis sorti de mon corps, je me suis vu de l'extérieur. » Et je me suis dit, voilà, si j'utilise les descriptions de projection astrale ou « Near Death Experience » et le livre des morts tibétains comme structure, je peux faire un film avec ça. En ce qui concerne les expériences de mort imminente, j'ai lu beaucoup d'articles et de livres à ce sujet. Souvent, les figures de style ou les descriptions d'hallucinations sont plus ou moins les mêmes, donc c'était facile de s'inspirer de ça. Après, tout le film est vu ou ressenti du point de vue du personnage principal, en vision subjective d'abord et en perception mentale. À partir du moment où il y a un accident, il se prend une balle, il est en train de mourir. Et du coup, je me suis dit, voilà, ce serait bien qu'on accompagne quelqu'un de sa vision normale à ses hallucinations et on ressent toujours dans sa tête.
Enter the Void sortira dans les salles tchèques le 6 mai prochain.
Et c'est donc tout dans ces événements, dans ces faits événements en République tchèque. Notre programme n'est pas terminé, comme vous le savez très bien, mais il se poursuit par sa rubrique régulière.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Photographe et scénographe, Zlatuše Josefa Müller est également la directrice du prestigieux Bohemian Carnevale, membre de la Fédération des villes de carnaval et fondée par son mari Rostislav Maria Müller. Et elle est également cofondatrice de l'atelier Francis Vussin. Parmi les nombreux prix qu'elle s'est vue décerner, on peut citer le prix Photo Princessan de 1997 qu'elle a obtenu en Suède ou ACFA European Portrait Award qu'elle a obtenu à Barcelone. Entre autres, elle a également réalisé la scénographie de Carmen au théâtre sur la balustrade en tchèque Divadlo na Zábradlí, mystérieuse et fascinante. Elle se présente lors des soirées mondaines, le visage caché par un masque en brocart doré, d'où son surnom la Dame d'Or. Zlatuše Josefa Müller.
Je porte mon masque pour assister aux activités dont j'estime qu'elles le méritent, par exemple lorsque je suis invitée en été au Garden Party, à la fête de la musique ancienne organisée par le Collegium Marianum, au théâtre ou lors de rencontres avec des mannequins du siècle dernier. J'ai d'ailleurs moi-même été mannequin de la prestigieuse agence des années 70 et 80, UBOC. Je mets mon masque avec une robe de soirée, c'est un vrai plaisir car le visage mérite également de porter un habit prestigieux. Dans mon cas, je suis la dame d'or, Aurélie, Aurélia, avec un beau masque qui orne mon visage.
Zlatuše Josefa Müller, née à Brno sous le signe du Capricorne, rêvait d'être chanteuse, peintre et finalement actrice. Mais il n'en fut rien. Elle est devenue une photographe et une scénographe renommée. Elle a hérité de son talent dramatique de sa grand-mère paternelle Josefa, qui était comédienne et qu'elle ne voyait pas souvent mais qu'elle adorait. Cette dernière avait l'habitude de féliciter un enfant qui réussissait quelque chose, ce qui est plutôt rare chez les adultes. Enfant unique, Zlatuše Josefa vivait dans son propre monde, mais elle avait aussi beaucoup d'amis et avec un tempérament de meneuse. Dès son plus jeune âge, elle faisait de très jolis dessins. Zlatuše Josefa Müller évoque ses souvenirs d'enfance. On l'écoute.
C'est toujours beau de s'asseoir de temps en temps et de faire revivre les souvenirs d'enfance. On parle de ces beaux moments seulement en famille ou lorsque quelqu'un vous pose la question. Les premiers souvenirs d'enfance les plus intenses qui me reviennent, c'est lorsque j'étais assise à table dans la cuisine et que je dessinais des princesses aux longs cheveux vêtues de magnifiques robes. C'était les mêmes robes que l'on confectionne à l'atelier, jupes volumineuses, tailles serrées, bref. Féerique. Je vivais dans un monde imaginaire que je m'étais créé et dans lequel je vis encore aujourd'hui.
À 13 ans, elle est déjà une belle jeune fille qui désire plaire. Elle a grandi sous le régime totalitaire. Dans les magasins, il n'y avait pratiquement pas de vêtements, ou seulement des habits démodés et sans valeur. C'est à cette époque qu'elle se lance dans la couture. D'abord, elle n'ose faire que des jupes longues et droites, puis suivent les mini qu'elle transforme au fur et à mesure en manches de robe ou de chemisier. C'est la mère de Zlatuše qui décide d'envoyer sa fille étudier à l'école d'économie de Brno, section secrétariat et travail administratif. Zlatuše est une excellente étudiante et profite bien de son temps libre. Elle entre au studio d'enfants du théâtre sur une corde, Divadlo na Provázku, et se consacre avec passion à l'art dramatique. Brno était une ville d'art et il était facile d'y rencontrer des artistes renommés.
Thank you.
Après ses études secondaires, elle essaye d'entrer à l'Académie des arts dramatiques, section dramatique mais n'est pas admise. Son handicap est qu'elle refuse absolument d'écouter les réalisateurs et les metteurs en scène. À cette époque, elle réalise déjà ses propres créations, projets et modèles. Elle décide alors de partir avec son ami à Prague, où ce dernier est admis à l'École supérieure des arts décoratifs. Elle ne connaît personne et doit se débrouiller seule. Elle a l'idée de présenter à un centre culturel prestigieux de Prague le projet Les Minces, Stieglitz, qui est un défilé de mode où se mêle du théâtre. Elle trouve les mannequins à l'École supérieure des arts décoratifs. Pendant un mois, elle ne dort presque pas et passe ses nuits à confectionner des créations extravagantes. Le succès est énorme et on en parle encore aujourd'hui. Finalement, Zlatusze Józefa arrive à entrer à l'Académie des arts dramatiques, section scénographie. C'est à cette époque qu'elle commence à apprendre à faire de la photo. Elle passe beaucoup de temps à chercher la bonne température du révélateur et le temps nécessaire pour laisser la photo dans le bain de fixage. C'est lorsqu'elle prépare son mémoire de fin d'études et se prépare pour partir en Italie que Zlatusze Józefa fait la connaissance de Rostislav Maria Müller, son futur mari. Zlatusze Józefa Müller.
C'était au club Radost FX. Il est très important dans ma carrière et dans ma vie. En 1995, j'y ai exposé mes photos pour la première fois. J'ai été choisie par la propriétaire du club, Bettea Zoli, parmi de nombreuses candidates. Je désirais rencontrer quelqu'un. Soudain, j'ai aperçu près de la piste un jeune homme. Il portait un bonnet et je ne voyais pas son visage. Je suis venue vers lui et j'ai pris sur la table, car il y avait un buffet, une feuille de salade, et j'ai commencé à chanter la chanson que l'on jouait. Il m'a regardé en me disant « il faut prendre un micro » et il m'a tendu une carotte. J'étais fascinée et me suis dit « c'est lui, il est comme moi ». C'était le coup de foudre, puis j'ai déménagé pour 6 mois en Italie et j'ai beaucoup voyagé. Finalement, Rostislav Maria me manquait et je suis retournée à Prague. Nous nous sommes fiancés et avons pris une photo ensemble à l'occasion des fiançailles. Depuis, nous faisons tout ensemble. Nous sommes inséparables comme des jumeaux.
Et ensuite, comme dans un conte de fées, Zlatusze Józefa a épousé Rostislav Maria Müller. C'est elle-même qui a confectionné sa robe de mariée avec 13 mètres de tissu brillant qu'elle avait acheté comme coulisse pour faire des photos. Artiste et mère de 2 magnifiques enfants, Amon Re et Elektra, Zlatusze Józefa Müller est la grande dame du carnaval de Prague.
C'est donc tout pour aujourd'hui. J'ajouterai que vous avez pu écouter comme accompagnement musical Magdalena Kozena et des musiques de Vivaldi. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis au revoir. À demain.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.